Bonjour, c'est Axel Le Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Alain Minc, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous avez publié en novembre dernier votre dictionnaire amoureux du pouvoir. Vous étiez venu d'ailleurs nous en parler, c'est aux éditions Plon-Grasset. Et face au mur de la dette de la France, vous proposez une idée qui ne ressemble pas tellement au libéral que vous êtes, mais on va en reparler dans un instant. Tout d'abord, un mot sur ce qui a été annoncé par Thomas Cazenave et Bruno Le Maire, qui ont défendu leur plan d'économie, 10 milliards d'euros en 2024, seulement deux mois après l'adoption du budget par le Parlement. Pour 2025, 20 milliards d'euros de coupes supplémentaires. On a l'impression que c'est un réveil brutal après des années où la question des finances publiques n'était plus un sujet. On se réveille, c'est ça qu'on
pense. La question des finances publiques n'était pas un sujet parce que les taux d'intérêt étaient à zéro, voire négatifs. Alors c'était une situation miraculeuse et on en a abondamment profité. Et puis la réalité a sonné à la porte et elle a sonné assez brutalement. Les taux d'intérêt, même s'ils vont un peu baisser, seront redevenus normaux, 4-3%. On a quand même une des plus mauvaises situations de l'Union européenne. Et une inquiétude évidente qu'un jour les marchés peuvent se fâcher. Les marchés, c'est, vous savez, c'est comme l'eau qui dort et puis à un moment, soudainement, elle se met à vibrer.
Ça fait longtemps qu'on dit ça, Alain Minc. Et non, puis finalement, là, on est en train de nous dire que les taux vont recommencer à baisser et que c'est une bonne nouvelle.
Non, mais les taux vont recommencer à baisser, mais légèrement. On ne verra plus ce qu'on a connu, c'est-à-dire des taux zéro ou des taux négatifs. Oui, les taux, ils vont peut-être devenir à 3%, c'est-à-dire d'ailleurs à ce qu'est la norme raisonnable sur laquelle on vit. Donc en effet, le réveil est brutal. En plus, la croissance est tombée, pour des raisons d'ailleurs qui ne tiennent pas à la France, qui sont des raisons internationales. Et on a quand même, pendant longtemps, on s'est menti à nous-mêmes. Alors, les 10 milliards, on voit déjà les vibration que ça provoque.
Oui, parce qu'effectivement, je me permets de vous couper, mais le gouvernement croit qu'il est possible de faire des économies. Il va passer à la moulinette certaines dépenses publiques. Et vous avez raison, certaines créent des tensions quand il est question de durcir, par exemple, les règles d'indemnisation des chômeurs, de revoir, par exemple, la prise en charge des affections longue durée. Ce sont des économies qui vont se faire dans la douleur.
Non, mais on commence là avec un premier coup de rabot. Et puis on nous dit 20 milliards. Mais 20 milliards, c'est un énorme coup de rabot. Alors on répond, mais il faut faire des réformes. D'accord, mais même si on faisait les réformes dont tout le monde rêve... En
fait, lesquelles ?
C'est-à-dire qu'il faudrait toucher, en effet, Bruno Le Maire l'a dit, à des modalités de l'État-providence, qu'il faudrait ne plus avoir 6 niveaux de collectivité publique. OK, mais au mieux, si on était capable de faire tout ça, ça aurait des effets dans 5 ans. Entre-temps, il y a un incendie. Il n'y a pas le choix.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que je dis, je crois qu'il faut augmenter certains impôts.
On va y venir sur la partie économie. Vous ne mettez pas ça de côté. Vous dites quand même, on peut essayer de faire des économies.
Mais il faut essayer de les faire. Mais elles auront des effets dans 5 ans. Donc, il faut d'un côté éteindre l'incendie, mais ce n'est pas très gai. Et de l'autre côté, essayer de faire des réformes. Mais on ne fait pas des réformes en fin de mandat présidentiel. Il ne faut pas se raconter d'histoire.
On est en aujourd'hui, fin de mandat, là ?
Ben oui, on est en fin de mandat, bien sûr. D'ailleurs, on est en fin de mandat depuis le début du mandat, presque.
Oh, ouais.
Bon, il n'y a pas de majorité. La tension au Parlement est grande. Vous croyez que tout ça va passer paisiblement ? Il y a un vrai risque d'une motion de censure sur le budget à l'automne, bien évidemment.
Ouais.
Je crois, si vous voulez, qu'on a, au fond, on s'est leurré depuis 2 ans sur la situation politique et sur la situation économique.
Quand vous dites « on », c'est le président de la République. Il
n'a
pas beaucoup d'appétence sur la question budgétaire, Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir.
Non, mais Emmanuel Macron, il a à la fois une ligne, une doctrine, on n'augmente pas les impôts.
Oui.
Mais alors, pour tous les macronistes, c'est à peu près l'équivalent de l'Immaculée Conception pour le conclave de Rome. Donc, quand vous leur dites qu'il faut augmenter les impôts, ah non, c'est contraire à la doctrine du président. Oui, mais les doctrines, alors l'Immaculée Conception, ça peut durer plus longtemps.
Mais
les doctrines économiques, elles sont faites pour bouger.
Mais Alain Minc, qu'est-ce qui a fait que d'un coup, vous êtes du côté de ceux qui disent qu'il faut augmenter les impôts ?
Mais tout dépend de quels impôts ?
Parce que je vous rappelle ce chiffre que vous connaissez, Alain Minc. Selon l'OCDE, dans sa dernière note statistique des recettes publiques, ça aussi vous connaissez, la France est championne du monde des prélèvements obligatoires, qui représente représente 46,1% du PIB, elle a détrôné le Danemark. On est champion du monde. Pourquoi vous dites qu'il faut encore augmenter les impôts ?
Parce qu'on va avoir un incident sur la dette, c'est-à-dire que nos taux d'intérêt spécifiques, l'écart entre les taux internationaux et les nôtres, risque d'augmenter. Après, il faut savoir quels
impôts. Alors, quels impôts ?
Pour moi, il est évident qu'il faut en revanche ne pas les augmenter sur les entreprises pour maintenir ce qui est la grande réussite du premier mandat Macron, c'est-à-dire d'avoir rendu la France accueillante pour les investissements étrangers. En réalité, de ce point de vue, on est devenu une terre regardée comme très intéressante. Et on le voit dans les histoires d'intelligence artificielle, etc. Après, ça veut dire qu'on touche aux ménages.
Alors, vous augmentez la TVA ?
Alors, je pense, si vous voulez, qu'il faut augmenter la TVA. D'abord, il y a un grand modèle qui est Mme Merkel, bonne gestionnaire, qui, il y a 15 ans, a augmenté la TVA de 3% temporairement et les prix n'ont augmenté que d'1,5%. Quand on augmente la TVA, les prix n'augmentent que de la moitié. Alors, je sais, la TVA est injuste, elle touche tout le monde.
J'ai rien dit.
Mais je l'ai vu dans vos yeux. Bon, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut symboliquement, à côté, faire une augmentation de l'impôt sur le revenu, aussi bien sur les revenus salariaux que sur les revenus des capitaux. Mais un de mes vieux maîtres avait une description très précise de ce que ça signifie. Il disait, en réalité, l'augmentation de l'impôt sur les catégories aisées, c'est comme une infirmière qui donne une tape sur la fesse droite avant de faire la piqûre sur la fesse gauche. Et la piqûre sur la fesse gauche, c'est évidemment des impôts qui rapportent. Et la TVA est l'impôt qui rapporte. Alors ça n'est pas gai, mais...
La principale critique sera dire que vous faites payer l'effort à ceux qui ont le plus de difficultés.
Non, mais tout le monde. Et c'est pour ça que je pense que pour la symbolique sociale, il faut augmenter l'impôt sur ceux qui ont les revenus les plus élevés. Mais il faut aussi penser que la TVA en France a été plus élevée qu'à l'étranger. Depuis 15 ans, elle n'a pas augmenté. Elle est aujourd'hui une des plus faibles de la zone euro. Une des plus faibles. Donc on a un peu de marge. Alors je ne suis pas en train de plaider avec bonheur pour une mesure intelligente. Ouais. Je dis simplement qu'il y a le feu, qu'il faut se méfier des marchés, que les marchés, par exemple, quand ils se sont fâchés, ont tué Madame Truss, la fugitive première ministre du Royaume-Uni, qui était une libérale plus que riganienne. Donc que les marchés auraient dû aimer, ils l'ont tué en une semaine.
Il y a le feu. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a le feu ? Où est-ce que vous voyez qu'il y a le feu ?
On le sent. On le sent quand on connaît les marchés, quand on voit que la notation arrive, quand on regarde les statistiques. Au fond, pourquoi la France a un taux d'intérêt qui demeure proche de l'Allemagne ? La seule raison, c'est que les marchés pensent que l'État français est une administration qui, s'il faut lever des impôts, saura le faire. Et c'est vrai que Bercy est une administration de ce point de vue.
J'imagine que vous l'avez fait passer ce message-là, y compris à Bercy.
Le meilleur moyen de leur parler à mes amis, c'est de vous parler.
Bon, bah peut-être qu'ils ont
lettres,
entendu.
Ils préfèrent de beaucoup. Ils font attention aux lettres publiques plutôt qu'aux messages privés, même entre
copains. Lever un nouvel impôt, jusqu'à présent, certains, comme Jean Pisani-Ferry l'avait proposé, en disant que ce sera un moyen de financer les grands investissements qu'on va devoir faire. Vous parliez de l'intelligence artificielle, mais on pourrait parler aussi de la transition écologique. C'est un impôt pour éteindre le feu.
C'est un impôt pour éteindre le feu. Et puis, il se posera quand même un problème. Si nous sommes en guerre, il va bien falloir augmenter les dépenses de défense. Et on augmentera les dépenses de défense, on ne va pas les augmenter en accroissant le déficit. Donc, on est devant cette interrogation-là. Ouais. Et si M. Trump est élu ou réélu, je ne sais pas comment on appelle une élection d'un mandat après, nous serons seuls. Comme avait dit un jour Mme Merkel elle-même, j'ai appris de M. Trump que nous devons compter sur nos propres forces. Donc l'augmentation des impôts, elle est désormais sur la table.
Et incontournable à vos yeux,
dans un
moment où on ne peut pas faire les grandes réformes qui dégageraient des moyens financiers pour l'État français. Dans ce contexte-là économique, vont avoir lieu les élections européennes avec une poussée des nationaux, comme ils disent eux-mêmes, des populistes, c'est selon, avec des sondages qui, jour après jour, donnent une large avance pour le Rassemblement national en France. Est-ce qu'à vos yeux, c'est une bonne méthode de faire cette campagne en ciblant uniquement le Rassemblement national ?
Non. Moi, je suis en désaccord avec cette méthode parce qu'on le met en scène. Et je pense que c'est de la part de la majorité une erreur, car la majorité a quand même quelque chose qui a été ça. En réalité, sa racine identitaire, c'est l'Europe. Je veux dire, Si vous cherchez quelle est la ligne directrice de la gestion d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe. C'est sa conviction absolue. Donc je pense qu'il vaudrait mieux être sur l'Europe, dire à quel point elle est vitale, que de mettre en scène le Rassemblement national. Et au fond, il en est ravi qu'on en fasse à la fois un bouc émissaire et une vedette.
Dernière question rapide. Vous avez fait une tribune dans laquelle vous dites « Je suis estomaqué par la résignation des milieux économiques, des milieux de dirigeants face à la possible élection. »
Pas seulement économique, de tous les milieux.
De tous les milieux, des élites face à la possible élection de Marine Le Pen. J'allais y venir, y compris du côté des grands patrons.
Les milieux économiques, mais vos milieux aussi, que je fréquente au moins autant que les milieux économiques, n'adhèrent pas aux propos de Mme Le Pen. Mais ils se résignent à une espèce de fatalité. Or, à force de se résigner à la fatalité, on favorise son arrivée.
Merci beaucoup Alain Minc. Dans un instant, on va retrouver les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur l'annonce d'Emmanuel Macron dans Libération et dans La Croix sur une aide à mourir. C'est bien qu'ils s'emparent de ce sujet-là ?
Moi, j'ai une réaction très simple. Oui. La loi Claeys-Leonetti a été votée à l'unanimité de l'Assemblée. Il faut avoir la main qui tremble quand on touche à une loi votée à l'unanimité.
Merci beaucoup, merci. Alain Minc, d'avoir été mon invité. On retrouve dans un instant les experts de C'est dans l'air. Restez avec moi, il est déjà parti. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.